Bienvenue au Polysécur, deuxième journée Humaco. Merci encore pour m'avoir invité à l'événement, c'est super trippant. Moi, je buzz complètement autour de plein de gens brillants et des contenus super intéressants. J'ai encore un super panel ce soir avec quatre personnes. Je vais commencer à ma gauche. Ingrid, tu n'as pas besoin de te présenter, mais juste saluer pour dire que tu es encore avec nous.
Bonjour et bienvenue parmi Humaco. Et aujourd'hui, ça a été encore une journée magique et on va essayer de vous partager les échanges et l'ambiance particulière parce que la transdisciplinarité crée de l'enthousiasme et la recherche, c'est très fun.
Eh bien, je m'appelle Audrey Vermeulen. J'ai fait une petite présentation sur la question de l'éthique by design de l'intelligence artificielle avec une entrée sur comment l'intelligence collective et l'imagination morale peuvent venir servir ce travail de conception.
J'aurais pas dit petite présentation, j'aurais dit très intense présentation parce qu'elle a été faite à vitesse grand V pour nous lancer en plein visage beaucoup, beaucoup de concepts.
Bonjour, je m'appelle Grégory Alexander et aujourd'hui j'ai fait une présentation sur les films de science-fiction, surtout sur un concept d'une investigation artistique qui s'appelle Science Fiction Prototyping. Et le but de ça, c'est d'utiliser les films de science-fiction comme moyen de mieux anticiper qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir.
Bonjour, je m'appelle Jérôme Nocoman. Aujourd'hui, j'ai fait une présentation sur le concept de responsabilité et de redevabilité algorithmique en essayant de déterminer qui est responsable de quoi et qui doit rendre des comptes de quoi et à qui.
Très complexe, on a vraiment une très grande diversité. Le point commun, c'est l'humain. L'humain au sens, on l'a vu dans un collectif, on le voit, comment imaginer le futur, comment la loi et comment l'humain est finalement le maillon fort, parce que ça, c'est vraiment ta thématique. Puis vas-y.
Mais l'humain est toujours le maillon fort. Arrêtez de croyer. Voilà, tu m'as parasité. Ouais, il m'a encore hacké le cerveau. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux. Est-ce que là, la neutralité du net, mais là, c'est un autre sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais esprit critique, es-tu là? En tout cas, aujourd'hui, il a été là. Hier, il était là. Et je pense que demain, il le fera aussi.
J'espère. Dans mon cas, oui. L'humain, même au pluriel, c'est-à-dire au carré, puisque l'intelligence collective, c'est vraiment une mise en collectif de l'humain. Et peut-être aussi de ce qu'il peut produire de plus intelligent quand il y arrive. Donc, et c'est là où on peut se dire qu'il reste la force qui fait émerger l'intelligence artificielle et qui doit rester dans cette question de comment on le maîtrise, puisque ça a été dit plusieurs fois, mais la question du contrôle, la question de l'orientation et du faire éthique a été un petit peu discutée à la fois dans l'anticipation. Quand on parle de science-fiction, tu as vraiment bien montré comment, en fait, des décennies avant, c'était annoncé, on y est en fait, ça y est, on y est. Et c'est le « on y est » qui arrivait tellement vite et qui nous oblige à penser comment on va encadrer ça. Jérôme, moi j'ai adoré comment tu as présenté finalement pourquoi les choix d'encadrement ont été faits et qui posent en fait des vraies questions d'intention de l'encadrement. C'est-à-dire pourquoi on encadre? Et donc, c'est des questions éthiques qui sont dessous. Enfin, bref, j'ai trouvé la journée extrêmement riche et j'aurai besoin d'un jour ou deux aussi pour intégrer tout ça.
Oui, Audrey, tu as tout à fait raison. Les choix réglementaires, par ailleurs, reflètent des choix éthiques au départ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les travaux du HLEG, donc le groupe d'experts de haut niveau indépendant nommé par la Commission européenne, qui ont fondé les textes réglementaires au niveau de l'Union européenne et qui ont commencé par analyser d'abord l'impact éthique et qui ont suggéré dès le départ une éthique dès la conception, qui est un choix qui a été laissé de côté par le législateur européen pour préférer une logique de sécurité du produit. Mais finalement, on retrouve cette espèce d'interaction, de congruence ontologique même, entre les développements éthiques et la réglementation telle qu'elle a été adoptée en juillet dernier. Donc je pense qu'il y a un lien vraiment entre la présentation que j'ai faite sur le choix de la responsabilité ou redevabilité et ta présentation, tes travaux sur la réflexion d'une éthique dès la conception.
Ben oui, quand on en a parlé, mais justement, ils ont tendance à recommander cette éthique justement qui doit arriver en amont. Alors, on ne précise pas exactement quand. Est-ce que c'est aussi dans l'idée, c'est-à-dire on va faire un service d'IA pour quelque chose? Est-ce que juste l'intention de départ, la raison d'être d'un service d'IA est inclus dedans? C'est pas tout le monde ne le pense pas comme ça. Le by design, en fait, en réalité, c'est une expression, l'éthique by design, qui peut être lue à plein de niveaux. Donc, ça peut aussi être dans la nature intrinsèque de ce que va produire l'objet conçu, l'artefact, dans comment est-ce qu'il relationne au monde et comment est-ce qu'il va permettre ou empêcher des choses. Donc ça, c'est son éthique intrinsèque, son ethos. Et on va avoir aussi l'éthique by design, on peut l'entendre sur est-ce que son processus de conception en lui-même est éthique? Est-ce qu'on produire une IA qui ne va pas faire de conneries, c'est OK si le processus qui a amené à sa conception et à sa fabrication, lui, ne l'est pas? C'est-à-dire, par exemple, qu'on utilise des développements qui se font dans des endroits et des conditions qui ne le sont pas. En fait, l'éthique, elle est à plein d'endroits dans la question de l'IA, dans la donnée. Et pas mal de gens vous diront que ça commence data first. Toujours, les données commencent par là. Et cette question de l'IA, en fait, on a aussi du mal à l'adresser dans le by design parce qu'il faut avoir la capacité de faire ce grand écart de dingue entre comprendre ce que sont les valeurs éthiques et les dilemmes qui vont les animer quand ils vont être mis concrètement face à des cas, vraiment, et qu'il faut le traduire dans du code, dans la mise en œuvre d'un système informatique, d'un logiciel. Et donc ce grand écart-là, moi, ma proposition, c'est pas une personne seule, c'est une équipe et qu'elle doit apprendre à le faire en interdisciplinarité, en utilisant potentiellement, donc ça c'est ma proposition, les méthodes d'intelligence collective qui, peu ou prou, donnent quand même des résultats.
J'aurais dû dire, c'est ça, pour faire un rebond sur la science-fiction, parce que la façon que tu as présenté les éléments de science-fiction, l'humain revenait souvent central. On sentait l'espèce de malaise qui était projeté à travers ça. Donc, la question éthique, elle est présente à peu près dans toutes les œuvres que tu as présentées, dont justement le robot qui n'est pas capable, quand on parlait, le nom m'échappe, mais Robbie. Et ensuite, quand on arrivait plus tard avec Ex Machina, où l'éthique, ceux qui ont vu le film, ben, le robot lui-même a redéfini son éthique en cours de chemin et a manipulé l'humain pour finalement arriver plus loin.
Je pense que c'est très intéressant parce que dans les films de science-fiction, même parfois, on a l'impression que les thèmes et que les idées partent très très loin. Mais ce qui reste, qui est le plus important, c'est les humains dans les films de science-fiction. Et là, dans plusieurs films, il y a le thème de « more human than human ». Et sur les thèmes comme ça, nous, on réfléchit beaucoup plus sur c'est quoi qui nous rend humains, en fait. Et je pense qu'à travers des films de science-fiction, on commence à réfléchir beaucoup sur l'éthique, sur où est notre place dans les avances, dans les avancements technologiques. Et surtout aussi avec c'est une façon de tester quelques idées. Par exemple, Audrey, tu as parlé de the trolley problem qui est bien sûr, donc par exemple avec des voitures autonomes, ça marche aussi. Vous avez une voiture, c'est exactement ça, vous avez une voiture autonome qui est sur la route, et après, est-ce que s'il y a un garçon qui arrive avec une balle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne à gauche et tue 5 personnes? Est-ce qu'on reste tout droit? Donc, je pense qu'avec les films de science-fiction, nous, on peut aussi nous montrer ces idées à beaucoup de personnes. Et c'est ça, la puissance des films de science-fiction aussi, c'est que c'est vraiment une façon de partager les idées, les questions et les réflexions, mais en masse, pour que les gens du quotidien ils réfléchissent beaucoup sur ces questions d'éthique et de...
Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a eu cet effet bouffée d'oxygène et waouh sur la journée, parce que dans la communication habituelle, l'humain est accablé, l'utilisateur est accablé, il est responsable de tout, c'est lui en fait qui est faible. Et en fait, quand on a dans les échanges, quand Jérôme, tu as expliqué qu'on a un cadre, mais c'est un cadre libérateur, en fait. Et alors qu'au contraire, on veut enfermer le juridique bout à bout, c'est l'enfermement, c'est on va tout restreindre. Ensuite, la science-fiction, comment elle libère sur des sujets qui peuvent, si je devais les discuter en tant que avec les acteurs de mon quotidien, il y a des sujets que je n'aborderais pas forcément parce que sociétalement, est-ce qu'on est mature pour l'aborder avec des gens de notre quotidien? Mais via la science-fiction, finalement, je désacralise certaines choses et je peux aborder des thématiques à plusieurs parce que on a tous à un moment donné une référence à partager, pour échanger et pour susciter le débat. Et justement, après, Audrey, elle nous a fait un feu d'artifice de cette intelligence collective. Et à un moment donné, on est là et on dit, et la réglementation le dit, c'est pas une personne qui est responsable. C'est tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'IA. Et en fait, à un moment donné, ce côté de partage de responsabilité nous impose de nous interroger en collectif, en transdisciplinaire, parce qu'on ne fait pas tous la même chose et on n'a pas tous les... Et puis en même temps, pas tous les mêmes vécus, pas tous les mêmes usages, pas tous la même culture. Donc en fait, c'est vraiment une transformation sociétale, un débat sociétal c'est à plusieurs. Quel avenir voulons-nous nous créer et quelle société voulons-nous nous créer? Et finalement, ça devient plus une question de l'humain est faible, mais finalement, de quelle société voulons-nous? Comment participons-nous à la construction de cette société? D'où ce côté un peu enthousiasmant, parce que d'un seul coup, je peux devenir acteur en exprimant aussi mon point de vue et comment, par des petites actions, parce que on n'est pas obligé de faire des trucs monstrueux dès le départ, mais un petit effet potentiellement papillon et dans les interactions humaines, parce que personne n'était contre la technologie, tout le monde était sur c'est quoi l'équilibre en fait dans l'interaction humain et IA, humain et système, parce que d'ailleurs on a parlé aussi des technologies, pas forcément avec IA. Donc à un moment donné, c'est comment on réagit et comment on interagit et comment, même nous, comment on se connaît mieux. Parce qu'on voit aussi l'évolution des technologies nous renvoie encore plus à nos propres limites, d'où les questions sur cette coopération.
Pour répondre à votre question, je suis d'accord que je pense que quand, et aussi en parlant de l'intelligence collective, c'est que si on prend par exemple un problème qui n'est peut-être pas lié à l'IA, si vous voulez changer quelque chose dans la société, c'est pas juste une chose que vous allez changer, il faut changer beaucoup d'habitudes et c'est vraiment un travail, et aussi ça se passe pas une journée à l'autre, c'est vous changez des habitudes de A et après B et après C et après D et c'est une chaîne et je suis tout à fait d'accord sur ça et je pense que c'est aussi une raison pourquoi on s'est tous réunis aussi et c'est aussi une raison pourquoi on a créé ce projet, c'est de se réunir beaucoup de monde pour que nous on est tous au courant des problèmes ou pas que des problèmes mais des situations qu'on doit gérer, mieux gérer et être beaucoup plus au courant sur certaines choses et de tous se réunir ensemble, c'est là où on peut vraiment commencer de faire des travaux petit à petit pour que dans les prochaines années, dans les prochaines générations, il y a des meilleures façons de voir des choses ou d'utiliser, par exemple, l'IA ou la technologie, etc.
Vous me faites penser à une chose, c'est que, certes, c'est vrai que j'ai amené des solutions qui peuvent être très engageantes, mais parce qu'il faut aussi faire un constat, c'est que c'est difficile. En fait, c'est difficile de faire ça. La question de l'éthique, c'est difficile parce que ça demande du temps, de l'énergie, des moyens, que ça va enlever probablement de l'économie et que du coup, en fait, c'est remonter à contre-courant. C'est-à-dire que pour faire bien les choses aujourd'hui, on a vu plein de manières de le faire. Les journées Umaco nous permettent de voir finalement, de mettre le doigt sur les endroits où on peut faire mieux. Moi je dis on peut faire mieux même ensemble et ça c'est génial et Umaco c'est ça, c'est faire ensemble entre des disciplines mais faire un constat aussi de la difficulté, donc on propose des leviers tous et on se rend bien compte aussi que c'est pas simple, pas évident Et pas forcément ça peut paraître des vraies et des fausses bonnes idées. Mon projet d'intelligence collective, je reste aussi vigilante dans le sens où c'est peut-être une fausse bonne idée. Je prends le pire des cas. On met en place ce système-là, ça marche. On a une équipe intelligence collective qui permet de faire aboutir quelque chose. Et en fait, ça sert à faire un ethic washing pour la société qui va le mettre en place, qui va communiquer là-dessus. On a fait en plus... moi, j'ai ça en risque, même dans le terrain que je monte, même si j'ai une confiance, parce que je sais aussi l'objet de départ de mon terrain. Mais ça peut arriver, et peut-être que ce que l'on va développer les uns les autres, il y a une machine en face qui fait très bien la récupération de bonnes idées pour la mettre au service d'un... Alors, je vais lâcher le gros mot, du capitalisme. Je pense que voir la difficulté et le fait que, en fait, on est en train de se mettre en horde, s'organiser les uns les autres pour faire une réponse finalement à ça, et qu'il y avait des prophètes que sont les SF et toute la créativité d'anticipation qu'il peut y avoir. Moi, ça me faisait penser ne pas sous-estimer la difficulté que l'on doit à laquelle on fait face et qui va grandissante tant. La temporalité humaine n'est pas celle de la machine dans le sens métaphorique, c'est-à-dire la grosse machine de production des machines.
Il y a vraiment plein de choses ici qui viennent d'être dites qui sont très pertinentes. Si on revient à ta présentation sur la science-fiction, je me souviens d'un auteur, Frédéric Pohl, qui disait que le propre de la science-fiction, c'était pas spécialement de prédire la voiture, mais bien l'embouteillage. Et donc, globalement, l'intérêt de la science-fiction aujourd'hui pour le législateur, c'est pas la technologie qui est présentée, c'est pas le robot ou c'est pas l'IA, ce sont les enjeux éthiques et philosophiques qu'elle soulève. Et ça me ramène, je pense, c'est toi, Audrey, qui a parlé de la résolution du Parlement européen dans ta présentation. Elle commençait par citer Pygmalion et Galatée, Frankenstein et le Golem de Prague et RER. En signalant, voilà, le concept fondateur du Parlement européen, premier paragraphe de la résolution, c'est la science-fiction, en un sens. Ce qui est, du coup, est particulièrement intéressant. Ça soulève les enjeux, ça identifie convenablement les enjeux. Et l'appel du Parlement à l'époque, c'était « nous avons besoin d'une réglementation pour y répondre ». Et c'est là où on en arrive à ta présentation sur la recherche, vraiment l'intelligence collective qui est nécessaire. On vient d'en parler sur donc l'AI Act, article 27, prévoit une analyse d'impact des droits fondamentaux, pas une analyse sur l'éthique, encore que droits fondamentaux, éthique, les connexions sont là. Hein. Parallèle n'est peut-être pas parfait, mais elles sont là. Mais c'est une analyse d'impact qui est faite dès le déploiement de l'utilisation, pas dès la conception. Ce qui pose problème, ou ce qui pourrait poser problème, utilisant le conditionnel. Également, au niveau de la responsabilité, de qui est responsable. Et là, on arrive à la tienne de présentation, qui soulignait l'humain n'est pas le maillon faible, c'est le maillon fort. Si on lit le règlement européen, le maillon fort, article 14, c'est le contrôle humain effectif. On sait que les algorithmes ont des défauts et on compte sur l'intelligence humaine, plurielle, pour y répondre. Et là, je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de cette rencontre aujourd'hui, des journées Humaco, que j'espère se répéteront à l'avenir, c'est qu'on a plusieurs présentations qui, globalement, cybersécurité, philosophie éthique, science-fiction et analyse juridique, qui finalement se retrouvent sur une seule et même question, c'est comment encadrer, au sens le plus large et pas seulement juridique, le phénomène technologique qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo aux organisateurs de la journée qui ont pu réunir des disciplines si différentes autour d'une même problématique.
Mais si on devait faire le graphe des échanges, bonjour le casse-tête. Parce que là, on était dans des systèmes sociaux techniques complexes, mais en même temps, le multi et le champ pluridisciplinaire, on a été fort, c'est qu'on a trouvé le moyen de s'entendre.
Tu posais la question du vocabulaire tout à l'heure. Justement, comment on fait quand on a des disciplines différentes avec parfois un entendement sur un terme extrêmement différent? Comment on se comprend? Et je crois que c'est aussi à travers des journées comme celle-là où on apprend à écouter l'autre dans sa place ailleurs en disant « Ah oui, quand tu parles d'ontologie, en IA, c'est pas comme moi je le dis en philo, en métaphysique. On parle pas de la même chose en fait. Et juste se rendre compte qu'on ne parle pas de la même chose et d'être d'accord sur le fait qu'on n'est pas sur le même sens, c'est un bon début pour ensuite trouver un sens commun. Donc déjà, se rendre compte des décalages, des communs et des non-communs, je pense que c'est un bon début dans la rencontre.
Et vive l'adaptabilité de l'humain, encore une supériorité par rapport à l'IA.
Oui, je pense que pour revenir aussi, je suis tout à fait d'accord que vraiment aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de sujets différents, mais quand même, je reviens vers l'idée qu'on a parlé de l'humanité et où est-ce qu'on place l'humain dans ces nouvelles technologies? Parce que au final, c'est le plus important, c'est tout à fait nous, c'est notre place. Et dans l'avenir, dans les années qui arrivent, où est-ce qu'on sera au milieu de la technologie?
Oui, et je vais rebondir là-dessus parce que là, j'ai beaucoup aimé l'effet du vocabulaire. Là, on est dans un fait francophone avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait francophone. Là, puis justement le règlement européen est écrit en anglais. Et puis même moi, les termes anglais traduits en français m'ont agacé parce que parce que je suis un Canadien bilingue. Fait que pour moi, la translation vers le français est inexacte au sens où ça l'est. Donc, ça devient... Déjà, on a de la difficulté à s'entendre en français dans des domaines différents. Comment on arrive pour collaborer? Puis ça, c'est le fait européen, avec une pluralité de langues et donc de cultures et d'approches différentes. Pour moi, ça, comme Canadien, c'est extraordinaire parce que nous autres, on a limite deux dans notre environnement, mais quoi qu'on chicane un peu comme les Belges en même temps, avec notre dualité, mais ça, c'est pas si pire. Mais dans un contexte de l'Union européenne, qui tout le monde doit parler la même chose, pour moi, ma tête explose.
C'est surtout faire la même chose qui est attendu, parce qu'au-delà de parler, c'est comment on harmonise les pratiques et c'est comment on va faire bloc, comment on va faire corps pour avoir une place à l'échelle mondiale. Donc c'est ça aussi qui évolue au niveau européen, c'est comment on, à un moment donné, ensemble, nous allons aller vers. Et c'est aussi une position et une posture qui a été prise par l'Union européenne.
On est en train de basculer sur la question politique, là. C'est pas anodin, parce que quand même, ce qui sous-tend les questions d'éthique, c'est finalement le politique, dans son vaste sens, qui est comment on s'organise pour faire ensemble, pour la question de la cité, finalement, et comment on va faire cité, comment on va faire ensemble, aujourd'hui, avec la production de quelque chose, d'un artefact qui prend un peu des choses de l'agent, qui commence à s'agentifier, qui commence à prendre de ce qui était de notre capacité d'agir, de notre puissance en acte, de ce qu'on était nous en train de faire. Et finalement, on est en train de fabriquer ce fameux golem qui, plus ou moins, au fur et à mesure, est en train de grappiller un petit peu de ce qui semble être notre humanité, même si ça se discute tout à fait sur le champ anthropologique et sur le champ biologique. Je me perds un peu dans mes propos, mais c'était cette question politique et comment on va faire politique avec quelque chose qui est en train de grandir. On n'est pas sur quelque chose de stable, on est sur quelque chose qui, je prenais une analogie tout à l'heure, sur la responsabilité d'un enfant. Un bébé, quelle responsabilité il a légale? Pas grand-chose. Un jeune de 14 ans en France, ça fait débat, est-ce qu'il a une certaine responsabilité? Bon, à 18 ans, ça, c'est censé être un adulte responsable. Analogie biomimétique un peu sale, quel va être le seuil de maturité que l'on va juger suffisante pour que l'IA prenne une part de responsabilité dans le politique?
Oui, là, il y a vraiment une division dans la littérature juridique et une déconnexion entre le discours du législateur et celui que tu viens de tenir. En droit, on a une summa divisio qui est très claire entre les personnes et les choses. Certains auteurs ont suggéré d'introduire une catégorie intermédiaire, disant que finalement, il existe certaines choses qui, sans être des personnes, ont une certaine agentivité. Les animaux, les arbres, parfois. les systèmes d'intelligence artificielle.
Les États vont commencer à avoir une personnalité juridique dans certains endroits.
Les institutions,
les sociétés, en un sens. Les fictions juridiques qui donnent la personnalité à quelque chose qui n'est pas humain, ça existe. Ce n'est pas un choix que le législateur européen a fait. Il a très clairement considéré le système d'intelligence artificielle comme un produit comme les autres. Évolutif, certes, mais produit quand même. Ce qui peut soulever des questions de responsabilité et, en un sens, en faisant le choix du produit, bien, la réponse est toute trouvée. Le responsable, c'est l'humain. Ce sera toujours l'humain. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement, sur où se trouve l'humain responsable. Est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il y a un impact sur la responsabilité évident?
Mais c'est bien pour ça aussi qu'il est bien dit, il y a aussi ce rapport à avoir conscience des effets de nos décisions, puisque finalement, on nous dit, si vous faites partie de la chaîne de décision sur la chaîne de valeur de l'IA, vous devez comprendre son fonctionnement et vous devez maîtriser les effets de la décision que vous allez prendre concernant l'IA. Mais aujourd'hui, le drame, c'est qu'il y en a qui n'ont même pas conscience qu'ils font partie de cette chaîne d'acteurs de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a une grosse problématique de gouvernance. Et est-ce que la gouvernance, c'est la gouvernance du chef de projet et du projet qui va être autour de la conception du produit d'IA, qui en général sont des traitants, sans responsabilité pour l'organisation, pas de responsabilité juridique au sens organisation. Et en fait, celui qui est engagé juridiquement, il n'est même pas conscient, lui, des décisions qui se prennent et de ce qui se passe et de tout ça. Et puis un jour, on va dire « Eh oh, you, monsieur, vous êtes convoqué au tribunal et vous êtes poursuivi parce que votre produit IA, quand vous avez autorisé son déploiement, en fait, a engendré telle conséquence. » Et là, ça va être un réveil douloureux. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, bah là, le mur, il va être bien pris et sérieusement pris. Et c'est là où, en fait, ce que je trouve assez alarmant, c'est que dans les communications sur les sujets réglementaires, ce ne sont pas les juristes qu'on entend. Ils sont bien écartés des plateaux. Ce sont les industriels. Et là, no comment.
Pour répondre à la question de la responsabilité, bien sûr, je ne suis pas juriste, donc c'est plutôt une question à vous deux. C'est que, donc, quand par exemple, si je retourne à l'exemple de voiture autonome, quand il y a un accident dans une voiture normale, on dirait, quand l'humain ou le conducteur il est responsable d'avoir fait quelque chose, parfois il est pas. Est-ce qu'il est. Même si c'est une réaction de 3 secondes, est-ce qu'ils sont toujours responsables? Parce que je sais, si on allait plus loin avec les voitures autonomes, c'est pas forcément le conducteur qui prend des décisions, etc. Mais dans les cas normaux, pour clarifier, est-ce que c'est l'humain qui conduit, qui prend une décision de 2 secondes et il tue quelqu'un? Est-ce qu'il est responsable ou... Après, peut-être on peut aller sur les voitures autonomes après.
Là, pour le moment, les constructeurs ont trouvé une solution en disant on a mis un bouton push pour que le conducteur reprenne la main s'il y a un incident. Alors moi, je veux bien. Maintenant, comme j'ai été bien formée par mes collègues de l'INSIAM, ils me disent « Oui, mais tu sais, dans un véhicule autonome, l'humain n'est pas dans la boucle perception-action et comme il est hors de la boucle, il est en incapacité de réagir parce qu'il a été tenu à l'écart. » Mais ce qui arrange bien mes ingénieurs système qui me disent dans l'analyse du système « Mais l'humain rajoute de la complexité, donc on le met à l'écart. » Je fais « Oui, enfin justement, à le mettre à l'écart, il ne pourra jamais faire ce que tu attends de lui. Mais tu lui mets une responsabilité. » Et c'est là où on dit « Vous avez décidé ça. Par contre, le droit vous dit, les acteurs sur la chaîne de valeur, la question de la responsabilité des acteurs sur la chaîne de valeur. » Et là, en fait, le problème, c'est que il y a eu cette non-perception du risque ou de l'incident ou du cycliste et que fait que le véhicule autonome est allé percuter le cycliste. Et on me dit, c'est de la faute du conducteur ou du capteur. Est-ce que c'est le capteur qui était défaillant? et qui fait que finalement, ça n'a pas été remonté à l'algorithme, l'info n'a pas été remontée à l'algorithme, il n'a pas pu le prendre en compte. Et finalement, bah, la voiture, elle a percuté le cycliste parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait un obstacle. Ou est-ce que... Non, le cycliste, il était déguisé. Donc, en fait, comme il a eu la bonne idée de se mettre, se déguiser en un truc que l'IA n'a pas reconnu, pour elle, il n'y avait pas de menace. C'est rien, elle a shooté une masse, mais qui n'était pas forcément un humain. Et bah, pas de bol, c'était un humain déguisé. Mais d'ailleurs, il y a des gens hein, qui s'amusent pour les véhicules autonomes, pour tromper la vitesse, à mettre des autocollants sur les panneaux signalétiques sur la route. Donc, ça montre bien aussi que l'IA ne reconnaît que ce à quoi elle a été entraînée et préparée et que la gestion de l'imprévu, ce n'est pas son fort. Donc, on fait mince. Et puis, c'est là où, en fait, on se rend compte qu'il y a une telle multitude d'acteurs, c'est qu'au final, dans l'ordre, c'est lequel le premier qui a déclenché l'accident et a démonté tout le process. Bah, entre le droit de l'électronique, ah oui, mais vous n'avez pas fait la révision, la garantie de bon fonctionnement de 2 ans, oui, mais c'est au sein d'un logiciel, ou la garantie légale de... Oh là là, le... Parce que là, en fait, on est dans une mise en situation avec une multitude de droits concernés qui, d'un seul coup, vont devoir s'organiser et se poser et de dire, bon alors, par rapport à toi, par rapport au droit du logiciel, ah oui, mais l'IA a été embarquée donc au sein d'un logiciel, il y a le droit de l'IA, il y a le droit de la donnée, il y a le droit de l'électronique avec mes capteurs, mais en même temps, aussi, enfin, c'est... Et puis alors, il manque plus que ce soit le code de la route français avec une voiture américaine, et alors là, vous avez des combos, mais un truc de dingue.
Oui, et donc du coup, si je peux me permettre une prédiction, c'est que les assureurs vont se frotter les mains. Globalement, c'est une pure question assurantielle. Les constructeurs et les conducteurs vont chacun prendre une assurance pour s'assurer qu'en cas de dommage, ils soient tranquilles. Et ça va se régler, comme aujourd'hui en fait, hein, entre assurances. Ce qui fait une belle jambe à celui qui subira un dommage physique ou moral en raison d'une défaillance du système ou du conducteur. Mais d'un point de vue juridique, c'est comme ça, je pense, que ça va se régler.
Et vous parliez éthique. Eh ben, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que les assureurs, demandez aux quels constructeurs ont intégré dans les données d'entrée des systèmes autonomes pour les véhicules autonomes les bases de, et en fait, les bases de réparation des préjudices des assureurs. Et si ils ont intégré cette information, je vous conseille de paramétrer un profil conducteur, patron du 440, avec 10 enfants qui veulent faire de très longues études. Parce que, en fait, nos chers matheux n'ont pas forcément conscience qu'en intégrant certaines données qui, pour eux, n'ont pas de sens, parce que c'est qu'une donnée parmi tant d'autres, ils viennent de décider qu'il va mourir dans un accident, en mettant et confrontant deux véhicules de la même marque. Et c'est des questions éthiques, mais quand on demande quelles sont les données utiles que vous avez intégrées dans le paramétrage de votre IA, ça interroge sociétalement.
Je crois que ça renvoie justement à cette question de l'éthique by design. Et tout à l'heure, je disais, c'est l'éthique by data, d'abord et avant tout. C'est que vraiment maîtriser les jeux de données. Il y a la question des biais, c'est-à-dire les problèmes de représentativité des données, mais aussi la sensibilité des données. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jeux de data qui sont super, qui ne sont pas biaisés, mais qui sont, comme tu viens très bien de l'expliquer, qui ne sont pas une bonne idée. Je vous prends un autre exemple, celui de données biologiques, par exemple, sur les quantités d'espèces qu'il peut y avoir dans certaines zones quand on fait une étude naturaliste sur des espèces en voie de disparition. Si vous mettez ça en données ouvertes, vous donnez cette donnée de manière libre, vous vous exposez à ce que les personnes braconniers ou les gens qui sont puissent se servir de ça. Ça permet de faire un suivi des populations, ça permet du coup éventuellement de dénoncer des pratiques toxiques sur certaines populations et de prévenir. Mais vous vous exposez à un risque qui est peut-être même plus violent. Et en fait, cette question du dilemme éthique dans la donnée, dans l'IA, elle va être toujours à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de compromis à faire entre le risque et ce que l'on veut bien en se disant « Ok, ça vaut le coup de prendre ce risque à cet endroit-là. » Oui, en fait, on a plus de chances de sauver d'espèces que de celles qui risquent d'être... Enfin, qu'on est, on a aussi à ce moment-là, on en parlait tout à l'heure, la créativité et l'imagination morale. Elle va permettre de sauter aussi au-dessus du dilemme en essayant de créer une troisième voie qui va être, oui, bah, sur les zones qui craignent un peu, on fait plus de flou. C'est-à-dire qu'à ces endroits-là, on ne donne pas une information suffisamment précise pour qu'il y ait un risque. Et en fait, l'idée aussi, c'est que là, l'intelligence humaine, aujourd'hui, elle ne va pas se remplacer. Et mon propos, c'est qu'il faut avoir autour de la table des gens différents capables d'anticiper ces choses-là et de les résoudre. C'est-à-dire d'être assez imaginatif pour trouver des voies comme ça qui vont être... On saute au-dessus de l'obstacle éthique et pratique, puisque c'est une question de design, finalement, pour aller faire quelque chose de plus efficace et qui fera un compromis éthique satisfaisant.
Et par rapport à la criticité des données, donc il y a effectivement, bah, comme tu viens de dire, des données où en fait elles sont sensibles du fait de quelqu'un, en fait c'est leur détournement par quelqu'un de mal intentionné, mais il y a aussi vu le volume et le recroisement de bases de données qu'on a pour, dans le fonctionnement des IA, c'est à un moment donné de recroiser certaines bases de données, qu'est-ce qu'on peut déduire, et de cette déduction d'un seul coup des données qui pouvaient être neutres deviennent sensibles parce qu'elles vont permettre en fait de mettre en évidence soit une vulnérabilité, soit d'afficher quelqu'un, soit de... Voilà, il y a des recroisements. Bon, il y a des recroisements où on fait de la détection de fraude, donc ça, c'est bien.
Ouais, mais c'est ça, comment on définit le bien? Parce que puis ça, je trouve intéressant parce qu'on va sentir, il y a trois grands blocs de culture au niveau des données privées. Il y a l'Europe, il y a l'Amérique, puis il y a l'Asie. Et on est vraiment dans trois cultures très, très, très distinctes de ça. Donc, puis là, c'est à quel point on le fait, puis à quel point on va tirer bénéfice de ces éléments-là. Puis là, c'est là où ça devient intéressant, parce que là, j'ai des Européens autour de moi. Moi, je suis un Américain. Donc, à ce moment-là, dans ce sens-là, comment vous voyez, parce que justement, tu recroises pas de la faute parce que c'est qualifié de bien, mais à quel moment, de façon éthique, puis là, on aborde des choses intéressantes, tu qualifies qu'un geste posé par l'État est bien? Et dans quelle mesure on est capable de le faire? Parce que là, ça devient sensible. En Asie, les autres n'ont pas de problème. T'es transparent pour l'État, littéralement. Puis ça ne les dérange pas, puis ils sont heureux là-dedans, puis ça, ils vivent bien. En Amérique, nous, on vend. Nous, on est capitaliste, on vend l'information. On est dans un autre univers. Ici, là, on est comme un peu dans... Ah, on ne sait pas trop. On ne sait pas ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Là, j'en ai fait trip. Là, ça... Allez.
Données privées, tu veux entendre données personnelles, parce qu'en fait, la donnée sensible n'est pas forcément personnelle. Hein, c'est que juste, elle permet de déduire des choses critiques.
Ben, au niveau du droit européen, c'est la donnée qui est personnelle ou qui vient identifier quelqu'un, ces choses de ce genre. Et le croisement, évidemment, l'exemple que tu avais mentionné, le croisement de données est protégé par des règlements qui empêchent une façon abusive d'y aller.
Chaque pays a dans son... Parce qu'il y a les données personnelles, certes, et ne pas nuire aux personnes et tout ça, mais il ne faut pas oublier que quand on parle de criticité de l'information et de la sensibilité, c'est qu'à un moment donné, c'est celui qui crée la donnée qui va en définir sa criticité. Et donc, en fait, nous, en France, on a l'IJ 1300, du SGDSN, qui va nous dire, bah, par exemple, le patrimoine scientifique et technologique est critique et est sensible. Et c'est quelque chose qui est protégé au même titre que le secret défense, que voilà, ça touche à la sécurité nationale, ça touche au rayonnement du pays. Donc c'est le côté souveraineté nationale. Et ça, il y a des sujets où l'Europe dit, attention, sur ces thématiques, chaque pays reste souverain. Et à un moment donné, pour moi, la question de la criticité, où on dit, bon, par nature, parce que la loi a dit que ces données étaient sensibles, c'est une chose, c'est la loi qui a dit qu'elles sont sensibles, donc tu les gères comme des données sensibles. Et puis, il y a toi qui as généré de la donnée, tu sais que si cette donnée fuite, ça devient sensible pour toi. Ça va te causer du tort. Donc, tu déclares et on nous dit, vous mettez des mentions. Et donc, on dit, attention, secret scientifique. Attention, secret technologique. Et t'as qu'à regarder, hein. Si les administrations sont nazes sur le sujet, les industriels maîtrisent grave la chose parce que t'as tous les marqueurs qui vont bien.
Ouais, mais là, t'es dans les secrets d'État et ça, il n'y a aucun... Tous les pays sont bien là-dessus. Cependant, quand on arrive dans la donnée personnelle, tout ce qu'on utilise pour entraîner le AI, tout ce qui fait le croisement de données qui permet de trouver de la fraude, tous ces éléments-là qui ne sont pas des secrets d'État, qui ne sont pas dans un contexte de souveraineté d'un pays ou une protection d'une valeur concurrentielle du pays.
Sauf si les fonctionnaires ont utilisé ChatGPT sur leurs données pro.
Notamment ça, mais c'est ça où je parle de la différence de culture. Puis même en Amérique, c'est encore pire. Là, il y a Doge est rentré, puis là, ils ont mis les mains dans les données sensibles de l'État. En plus, autres, c'est encore pire que ça. Eux autres, ils ont littéralement désécralisé tout ce qui était normal, sacré au niveau des données souveraines ou régaliennes. Donc, eux autres ont endommagé ça. Mais quand on regarde en Asie, les gens vont donner leurs informations. Si on parle en Chine, ben c'est Black Mirror. C'est-à-dire, on a une cote citoyenne. On est dans cet univers-là où l'État nous quantifie si on est un bon citoyen. Donc, on a des différences culturelles. Au Japon, l'arrivée des robots, eux autres, c'est bien. C'est ultra bien accepté. Ici, on l'a vu la réaction quand on en a parlé un peu, puis les gens étaient comme un peu plus « Oh, pas sûr, moi, que je veux qu'un robot me gère. » Je pense que l'exemple que tu avais donné, les pieuvres dans The Matrix, qui sont tout à fait désagréables en termes d'idées que ça pourrait te manipuler d'une façon ou d'une autre. Donc, on est dans une imagerie différente, puis c'était justement ramener cette image-là aussi. Là.
Oui, et en parlant de données, ça me fait penser à Skynet dans Terminator, bien sûr. C'est que nous, bien sûr, si on a des montres connectées, on met tout ce qu'on mange dans les applis, on a Strava pour calculer nos... quand on fait les courses à pied, par exemple. Et je sais que Strava, il y avait des problèmes récemment avec je pense que c'était la sécurité de président Macron qui est... Oui.
Et les autres présidents aussi, hein, les gardes du corps adorent ça. C'est que si on veut des muscles, il faut utiliser des applis qui disent où on est. C'est ça l'expression
de
besoin.
Ils ont tous fait le tour et après ils ont vu, OK, bah, il y a quelque chose qui se passe là-bas.
J'ai un nez à beau mec. Excusez-moi.
Je pense avec ça aussi, c'est que souvent quand on va dans les sites, je pense aussi, si je me souviens bien, vous avez parlé aussi des cookies hier. Par exemple, beaucoup de monde, moi j'ai un pote qui dit, j'ai dit toujours oui parce que je ne sais pas ce que c'est. Et donc, et donc des choses, et c'est pas le seul. Et je pense aussi quand on crée des nouveaux comptes pour des sites internet et on voit le terms and conditions et c'est 8 pages, on dit oui, accepte. Oui,
d'ailleurs, la réglementation, elle a jamais dit qu'on devait faire un truc imbuvable en première approche. On a le droit de faire un truc sexy, glam, et après de dire pour en savoir plus et d'aller creuser. Mais comme en fait nos chers développeurs ne savent pas qu'il y a le site internet, nous en tout cas en France, on a la CNIL qui dit voilà comment vous pouvez remplir vos obligations d'information avec un petit résumé, un truc qui doit faire 10 lignes, où vous avez le droit de faire des rimes, vous avez le droit d'être sexy, vous avez le droit de faire market, si vous voulez, tant que vous transmettez l'info essentielle et avec en disant pour ceux qui le veulent, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller savoir le détail. Pourquoi ? Parce que le juriste a conscience du cognitif et qui sait qu'en première approche, quand la personne se connecte, ce qu'elle veut, c'est l'information et elle ne veut pas être ennuyée et avoir un obstacle. Ça ne doit pas être le parcours du combattant pour accéder à l'information. Donc en fait, tout obstacle, il va vouloir le franchir vite. Donc en fait, il va écarter. Mais si je fais une info courte avec l'essentiel, et là où je vais dire « c'est qui va récupérer mes données ?» C'est Monsieur Trump. Je vais vérifier les autres mentions. On va creuser. Et à un moment donné, c'est pas parce qu'un développeur est mal conseillé en droit et qu'il nous met un truc imbuvable que c'est le droit qui a voulu ça. Hein. Mais j'ai un allié aujourd'hui, j'en profite.
Oui, ça justement, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la transparence. On part du principe que l'utilisateur doit recevoir toutes les informations, mais le simple fait de lui donner toutes les informations fait qu'il ne les lit pas, simplement parce qu'il n'a pas le temps. On a plusieurs études empiriques qui ont démontré qu'il n'y a simplement pas assez d'heures dans une journée pour lire les terms and conditions auxquels on est tous les jours soumis. Donc on ne les lit pas, on descend, on clique, on accepte, et évidemment qu'on a pris connaissance. Ce qui est intéressant également d'un point de vue de protection des données, on a rempli, pour l'entreprise, je veux dire, on a rempli ses obligations légales et en même temps, on continue le même popot de carreau. Donc, c'est à nouveau une espèce de balance d'intérêt entre je donne l'information telle qu'elle est utile pour l'informateur, ce que la CNIL suggère, effectivement, et l'intérêt de l'entreprise derrière, dire je donne toute la formation comme ça, de toute façon je suis tranquille, personne, aucune autorité de supervision ne va venir m'embêter, et en même temps, bah, je continue à avoir accès aux données personnelles des utilisateurs de mon service.
Sauf que c'est pas un consentement éclairé, puisque la communication n'était pas adaptée, donc le mec il croit être libéré, mais il l'est pas, le gros naze. Il est mal conseillé, c'est tout.
Ça me fait reboucler à ta question de départ sur la question de la fraude. Est-ce que c'est juste ? Et du coup, tu montrais ces différences culturelles qu'on peut avoir de conception du rôle de l'État et du coup, du droit, entre la question de est-ce que c'est juste ? Peut-être que la question de la fraude, elle dépend aussi, il y a des... Qu'est-ce qui est une fraude ? Et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du droit positif. Et donc, c'est une autorité politique qui va déterminer ce qui semble juste à son regard à elle. Ça ne veut pas dire en soi que c'est juste, moral, éthique. Il y a une histoire de système aussi, de système de valeurs, de système de croyances, de système... Et la question politique, elle est toujours là. C'est qu'on vit avec des gens dans des systèmes différents. En démocratie, on essaye de faire des gouvernances qui... organise comme elle peut des mondes différents de manière de voir les choses, et on a les grands blocs comme ça où on a une conception aussi de ce qu'est l'identité et de l'individu dans sa relation à l'État, c'est-à-dire sa dépendance et sa, enfin finalement ce qu'elle est redevable. Finalement, on revient à la question des redevabilités. Est-ce que je dois, est-ce que j'ai une redevabilité envers l'État de transparence justement sur qui je suis, est-ce que par rapport à la fraude, est-ce que il est possible qu'on se considère que le fait que l'État vienne détecter certaines fraudes, ça en fait c'est pas ok, alors que justement dans les systèmes plutôt asiatiques ça va être, ça paraît une, en fait c'est légitime sous couvert d'une certaine tranquillité sociale, et finalement on est toujours dans cette balance du de la tranquillité sociale avec le contrôle social diffusé VS quelque chose qui va être quelque, la protection de l'individu avec finalement les risques qui vont avec. Et ce curseur-là, il n'est pas simple parce qu'il pose tout un tas de questions que sont la démocratie, la liberté. Derrière, on est toujours sur cette question fondamentale que c'est quoi être libre et avoir sa souveraineté. On l'a dit, quelle est la souveraineté de l'individu, quelle est la souveraineté du collectif, et comment ça prend ses décisions. Et le droit positif, de manière générale, il a toujours un temps de décalage avec la réalité. C'est-à-dire qu'on a le temps pendant quelques années de se manger des murs et qu'il y arrive des choses où on se dit il faudrait qu'on bouge un peu, qu'on se décale et qu'on crée des choses. Donc on a aussi toujours cette zone grise qui est celle de la réalité, le monde qui change, et comment est-ce que le droit, l'encadrement, le contrôle se met en place pour ça, pour aller sur cette paix sociale.
C'est-à-dire que pour encadrer des effets, il faut peut-être connaître les effets, et que tant qu'on n'a pas eu le cas d'usage ou qu'on n'a pas été confronté à la situation, il est assez dur de réguler à titre préventif. Et qu'en général, d'ailleurs, la loi, elle évolue, et la loi est un travail de parlementaire. Donc, voilà. Et après, les juristes s'en dépatouillent, mais c'est... Surtout, à un moment donné, une réponse à, c'est pour réguler des interactions dans une société pour permettre un vivre ensemble acceptable, pas parfait, acceptable. Donc après, là aussi, c'est aussi une réponse à nos cultures, à notre éducation, à qu'est-ce qui est acceptable. Parce que, ok, il n'y a pas de vie privée en Chine, mais est-ce que... Nous, on doit tout donner au gouvernement chinois. Mais que nous donne le gouvernement chinois ? Bon, si je disparais, vous saurez pourquoi. Mais ils ont une résolution de problème un peu particulière. J'en rajoute. Mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre éducation ou la manière dont on nous a fait grandir et la manière dont on a forgé nos esprits font aussi qu'il y a des choses qu'on accepte plus ou moins. En tout cas, j'ai trouvé que les Français savaient être parfois de bons moutons, d'où aussi tout le travail sur l'esprit critique.
Audrey, pour revenir à ce que tu disais sur le droit qui peine à rattraper la réalité technologique, c'est ce que Roger Bronsworth appelle le challenge of regulatory disconnection, qui est en fait une espèce d'actualisation du pseudo-paradoxe de Zénon, disant que globalement, Achille ne rattrape jamais la torture. Bon, dans tout un référentiel cinétique, faux, évidemment. Et c'est cette même idée. C'est de dire que finalement, le législateur sera toujours en train de talonner l'ingénieur et n'arrivera jamais à le rattraper. Et ça, en littérature juridique, on a des outils qui nous permettent de compenser cette défaillance. Et c'est ce que l'AI Act a essayé de faire avec les bacs à sable réglementaires. Disant globalement, bon, oui, on a un règlement européen qui est supposé encadrer les systèmes d'intelligence artificielle. On ne sait pas exactement comment les systèmes d'intelligence artificielle vont réagir à cette réglementation, comment les développeurs vont pouvoir l'adapter, etc., etc. Et donc, on va créer un bac à sable réglementaire dans le cadre duquel les développeurs vont travailler avec les autorités de réglementation pour développer un système d'IA qui soit conforme à l'AI Act en levant une partie des obligations du règlement derrière. Donc globalement, ça veut dire que le développeur va créer son système et qu'au fur et à mesure, ils vont réfléchir, bon, très bien, je dois respecter telle disposition légale, comment est-ce que je peux faire ? Et il le fait avec le régulateur. Ce qui permet, du coup, au droit d'être en phase avec la technologie.
Et d'ailleurs, sur le site internet de la CNIL, vous avez toutes les restitutions de ces travaux bac à sable pour montrer un petit peu les problématiques qui ont été rencontrées, comment ça a été résolu. Enfin, c'est-à-dire que l'autorité qui a été désignée, donc nous pour la France, c'est la CNIL, c'est une vraie ressource pour quelle technologie de demain. Il y a énormément d'outils, de guides, de débats, d'experts, de références, d'expériences, de retours. Enfin voilà, il y a énormément d'informations qui vont venir alimenter et qui sont mises à disposition. Mais c'est la CNIL, c'est une autorité de régulation. Qu'est-ce qu'elle y connaît ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les acteurs, quels qu'ils soient, il y a une stratégie d'évitement en fait des ressources clés pour les aider, c'est-à-dire que les guides existent, mais c'est tellement plus simple de prendre ce qu'on m'alimente chaque matin dans mon fil d'actualité, c'est tellement plus simple de suivre ce biais de renforcement dans mes propres croyances sur ce que je vais avoir dans mes, en fonction de mes préférences, hein, parce qu'il n'y a pas que pour Netflix, c'est que finalement, dans tous mes usages numériques, tout est tracé. Et finalement, on me conforte dans mes positions, qui ne sont pas forcément les bonnes, hein, parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, à la pensée unique et d'éviter la transdisciplinarité et l'intelligence collective, c'est qu'à un moment donné, on est renforcé dans notre connerie, et donc ce n'est pas glorieux.
Il y a des projets qui existent justement de contre-bulles de filtre et qui sont comme ça, comment ne pas éviter l'altérité, la rencontre, puisque finalement, l'algorithmie aujourd'hui, en fait, limite la rencontre et le dialogue. Et on a besoin d'abord d'avoir une rencontre avant de rentrer en dialogue. Et donc, effectivement, on est en train de rater ça. Mais d'un autre côté, on a accès, si l'intention y est, à une tellement de choses qu'on peut finalement rencontrer plus de choses. T'as un paradoxe dans ça. C'est aussi une question, et on revient à quelque chose qui s'est dit plusieurs fois aujourd'hui, il y a la question finalement de l'éducation. L'éducation au sens critique. Bon, on revient sur un lieu commun, mais finalement, quand tu as conscience de ça, juste la prise de conscience de ça, cela dit, tu le disais tout à l'heure, on manque de temps pour lire tous ces petits trucs-là. Il y a un système qui fabrique qu'on ne prend plus ces temps-là non plus. On se retrouve à ne pas avoir des espaces de prise de recul critique sur nos propres pratiques. Certains te diront que c'est volontaire, d'autres que c'est le système qui s'emballe comme ça. Armut Rosa te parle de l'accélération. On peut le voir de différentes manières, mais il y a aussi cette difficulté de respiration, recul à prendre pour faire les choses. Parce qu'il y a une vitesse qui n'est pas la même entre la machine qui avance et toi qui devrais prendre du recul pour ça.
Michel Serres en parle très bien dans Petite Poussette, justement, de cette transformation de la société et c'était mieux avant. Mais avant, c'était quoi la Seconde Guerre mondiale? C'était la guerre du feu? C'est quoi avant? Et en fait, c'est bien la question de cette coopération humain-machine à trouver. Pour le moment, on s'apprivoise parce qu'on ne voit pas encore le champ des possibles, on ne mesure pas, on n'a pas tout essayé, on n'a pas tout investigué. D'où une régulation qui permet quand même d'innover, d'aller de l'avant et qui n'est pas si bloquante et enfermante que ça. Et puis après, derrière, de dire allons-y, mais on se pose quand même les bonnes questions parce qu'il y a quand même une approche par les risques. C'est-à-dire que si on crée du risque, il faudra assumer les conséquences. Et c'est là où, à un moment donné, je trouve que là, on est dans une transformation où on va permettre quand même à l'humain de travailler son adaptabilité et puis de susciter ces débats, de trouver ses règles, de se trouver en fait. Et les temps de respiration, moi j'aime bien aussi, c'est-à-dire que la qualité de prise de recul, ce que j'aime aussi avec les philosophes qui nous amènent à un moment donné sur des situations à dire « Hey, maintenant, on remonte, on prend de la hauteur et on vient clarifier des problématiques parce qu'ils ont aussi cette belle capacité dans des situations très complexes à clarifier les choses. Et je pense pour pouvoir rebondir. C'est-à-dire qu'on a une capacité à rebondir une fois qu'on a clarifié et qu'on a arrêté de s'embourber et qu'on a pris cette hauteur et cette respiration, ce stop temps mort.
Oui, je rebondis là-dessus, puis ça fait un peu un lien avec ce qui a été dans les dernières questions du panel qui nous a précédé. La question avait été posée, la vitesse de création, la vitesse, donc le AI était devenu comme un prétexte d'aller plus vite, quand justement on est dans un contexte où on devrait aller moins vite avec le AI, justement pour se laisser le temps, se laisser vivre et ne pas se laisser avaler par ce AI ou par ce qui s'en vient, parce que devant nous, on se sent comme obligé de courir après ce changement-là, comme s'il était, même s'il est inexorable, on n'est pas des victimes à mon avis, puis si vous avez bien dit ça. Je vous relance la balle, vous deux, parce que puis on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez justement de prendre son temps par rapport à où est-ce, ce qui s'en vient, tout ce qui se présente devant nous?
Je pense que de prendre son temps, je vais rebondir sur l'effet d'éducation. Je pense que, et pour retourner vers les films de science-fiction, parce que donc c'est que je pense que et c'est aussi quelque chose qui pour retourner vers aussi les jeunes, et c'est quelque chose qui est très important de montrer aux jeunes, mais pas dans une façon terrifiante avec les Terminators qui il faut créer. Il y a quelques bandes dessinées qui étaient très sympas. Il y avait une qui était faite par Disney qui s'appelait Run's Gone Wrong, qui était une histoire d'un garçon. En fait, il y a des enfants qui ont des sortes des amis robotiques, et c'est à travers des robots qu'ils partagent leur vie sur les réseaux, etc. Et bien sûr, il y a des choses qui se passent mal et ce qui se passe bien. Et je pense que c'est très important d'éduquer les enfants et les jeunes sur ces sujets dans une façon agréable. Et pas que vous allez tous mourir si quelque chose de mal se passe, mais sûrement ce qui, comme avant, comme dans l'histoire, avec beaucoup de faits pour des enfants. Il y a un concept qu'il faut bien comprendre pour d'être bien éduqué pour ne pas le faire plus tard dans la vie.
Je lisais ce matin sur LinkedIn une collègue qui vient de défendre sa thèse et qui écrivait « Je fais partie de cette génération qui n'a pas utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger sa thèse. » Et elle en était très fière, très contente, parce qu'elle en retirait une satisfaction en tant qu'auteur ou autrice, d'avoir fait ça elle-même de ses propres mains sans utiliser l'IA. Et je pense que c'est assez pertinent dans le cadre de la recherche de prendre son temps. Je pense que tout chercheur s'est déjà retrouvé avec une intuition ou une idée qui, quand il a pris le temps d'y réfléchir, en fait, était complètement erronée ou fausse. Imaginons maintenant, on a une idée, on se dit « Génial, allons sur ChatGPT, Gemini ou quoi que ce soit, développons un papier basé sur un bon prompt, rapidement, on va avoir quelque chose de publiable qui sera sans doute accepté par une revue quelconque. » Et ben voilà, c'est fait, c'est trop tard. L'idée est publiée et l'idée est fausse. Donc prendre son temps, oui, c'est même nécessaire en réalité, surtout dans la recherche.
Et je vais juste retourner à ce point-là parce qu'on a même parlé de ça ce midi. C'était qu'il faut souvent, dans ces études, on pense que si une publication n'est pas faite, si c'est fait avant 2000, c'est pas du tout utile, c'est pas du tout important. Mais en fait, parfois, les très très vieux publications qui peuvent même beaucoup plus intéressantes que celles qui sont faites maintenant, parce que comme comme tu dis, c'est fait à la main. C'était vraiment, c'était, les gens, ils n'étaient pas pressés pour publier. Ils ont vraiment pris beaucoup de temps et ça se passait par des éditeurs, etc. Et parfois, ça, quand on prend le temps, les choses qu'on fait, ça a beaucoup plus de valeur. Bon.
J'avais envie de vous proposer une petite conclusion par rapport à ça. Tout à l'heure, mon propos, c'était de parler de l'imagination morale, de ce que tu veux dire. Finalement, on a besoin de la muscler. Et ce que dit Martha Nussbaum, c'est que justement, le narratif, la fiction est la meilleure manière d'entraîner notre capacité justement d'imagination morale et du coup, notre capacité critique, éthique, à construire quelque chose derrière. Donc finalement, la fabrication de ces récits, c'est la fabrication aussi de notre distance critique. Et prendre le temps de regarder ces fictions est peut-être une des meilleures façons de se muscler et accompagner les plus jeunes à simplement aller voir les bonnes fictions. Et peut-être celles qui ont été faites avant. je reprends l'analogie, mais il y a des vieilles fictions. On parlait de Matrix tout à l'heure. On parlait justement de l'intégration dans Matrix de plein de questions qui se posent maintenant. Finalement, c'est des choses qui peuvent... Une lecture de la fiction accompagnée, discutée avec du public est peut-être une des manières, un pied dans la porte dans le développement de l'imagination morale qui me semblerait intéressante à mettre en œuvre.
Ce qui est vieux n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est très important de connaître nos classiques. Puis ça, c'est une des choses qui, à l'heure actuelle, est manquante. Et j'ai une référence très intéressante, puis c'est justement sur un lien avec l'AI. J'ai un ami à Montréal qui a une entreprise qui fait d'analyse de texte. Et les moteurs AI sont moins performants que d'analyses statistiques qui ont été développées dans les années 70 par des chercheurs obscurs, mais qui sont d'une rapidité qui me disait, c'est le AI conventionnel, ce qu'on a là, prenait 2 jours pour avoir un résultat intéressant, lui prenait 15 minutes. Donc, on est dans un contexte où, à l'heure actuelle, on prend un marteau et on essaie de tout taper avec quand il existe une panoplie d'autres outils à notre disposition pour arriver à des résultats supérieurs qui sont beaucoup meilleurs et plus intéressants. Je vous remercie énormément. Ça a été un panel super chouette. Ça a été une super journée. On aura une autre super journée demain aussi pour ceux qui restent. Merci énormément. Moi, j'en sors excessivement enrichi, comme j'en suis extrêmement enrichi hier. Merci pour l'invitation, Humaco. Et j'espère que, comme ça a été dit, qu'il y en aura un deuxième l'an prochain pour justement remettre encore un peu une autre bûche dans le poil, parce que l'expression a fait sensation à l'entrée, donc je l'ai dit à la fin. Merci énormément. Et il faut l'en délire, cette fois. We're gonna go.